Nous avons eu l'occasion hier à 17h d'étudier le chapitre 13 du Deutéronome où nous avons vu la rigueur de Dieu à l'égard de tout ce qui confine, tout ce qui amène à l'idolâtrie. Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire exclusif, et tout ce qui détourne les hommes de lui pour les amener nécessairement à l'idolâtrie, nous avons vu qu'il n'y avait pas de position neutre, intermédiaire. Les athées ne sont pas des gens neutres, ce sont des gens qui ont refusé le vrai Dieu, qui ne croient pas même à son existence, ou tout au moins, ils professent de ne pas croire, ce n'est pas la même chose, mais ce sont des gens qui, par ailleurs, sont liés. Et si la Bible ne nous montrait pas cela, elle ne serait pas vraie. Il y aurait quelque chose de faux. Un Dieu qu'on nous présenterait comme étant un Dieu complaisant, acceptant un partage, ne serait pas le vrai Dieu. C'est pourquoi la conception qui prévaut dans des formes traditionnelles du christianisme du bon Dieu, n'est-ce pas? Et le protestantisme en a aussi de cela, lui aussi, il prononce cette expression, le bon Dieu. C'est le bon Dieu dans la conception du bon Dieu, n'est-ce pas? Il y a celle d'un Dieu complaisant, un père, mais un père qui fait du paternalisme, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qui consent, oh, tu veux ça, bon. Bon, ben écoute, si ça te fait plaisir, bon, ben prends-le. Nous allons voir cette conception remonter, mes amis, remonter à Babylone. Allons le voir dans un instant. Cette conception d'un Dieu qui se livre au paternalisme, c'est-à-dire, n'est-ce pas, à cette bonhomie qui veut bien tout, qui accepte, n'est-ce pas, on dénature l'amour de Dieu. Et on en fait un amour complaisant, un amour qui s'accommode de tout. Cette conception du paternalisme prêté à Dieu remonte à Babylone, c'est-à-dire au pire vertige de l'idolâtrie. Babylone, c'est le summum du vertige de l'idolâtrie. C'est pourquoi Babylone est opposée à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Le diable a pu, bien sûr, se jeter sur elle et y introduire l'idolâtrie. Mais Jérusalem est la ville choisie de Dieu. C'est le lieu où Dieu, nous l'avons vu, veut qu'on lui apporte le culte. Et Jérusalem, c'est la cité du sacrifice, la cité du grand roi, là où Jésus-Christ lui-même va régner sur cette terre. Et Jérusalem et Babylone sont les deux villes qui s'opposent. Deux villes, deux conceptions, deux modes de vie, n'est-ce pas? Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et nous pouvons faire un schéma qui serait, si vous voulez, celui-ci. Nous mettrions ici la vie et ici la mort. Il n'y a pas autre chose entre la vie et entre la mort, il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas? La vie et la mort. Alors ici, nous mettons Dieu, là, nous mettons les idoles, les différentes idoles, il y en a tant dans le monde, les idoles. Et ici, nous mettons la vérité révélée, la vérité claire, absolue. Ici, nous mettons le mensonge. Là, nous mettons la séduction, n'est-ce pas, sous toutes ses formes. Ici, nous mettons là, la sainteté. Sainteté à l'éternel. Ici, n'est-ce pas, tous les mots. Et ici, nous mettons la protection de Dieu. Voilà, on pourrait tout départager dans la Bible entre ces deux parties, n'est-ce pas? Je ne veux pas continuer, mais à la vie correspond l'amour de Dieu. On pourrait mettre ici encore, tenez, ici, n'est-ce pas, amour, l'amour vrai, l'agapé. Et ici, on mettra, n'est-ce pas, l'égoïsme et la haine. Alors, n'est-ce pas, tout se partage ainsi dans l'existence humaine. Tout se partage. Vous pouvez trouver, vous trouverez dans la Bible toujours ce grand partage. En deux, pas en trois, en deux. D'un côté, il y a la vie, de l'autre côté, il y a la mort. Et la conversion consiste à quitter ce clan, à quitter ce côté, pour arriver là, par ici, entre le trait, bien entendu, n'est-ce pas, la nouvelle naissance, repentance, qui permet d'entrer dans la vie avec Dieu. Eh bien, ceci étant dit, en quelque sorte comme un rappel, je voudrais maintenant vous donner encore quelques indications au sujet de l'idolâtrie. Il y avait une autre fois, et bien entendu quand je dis autre fois, ça a réapparu aujourd'hui, ça a réapparu de tout temps, il y avait des actes sacrés, notamment le culte de la débauche et le culte de la cruauté avec des sacrifices d'enfants. Des sacrifices d'enfants, culte de la débauche, culte de la cruauté, que le christianisme avait fait disparaître, mais qui réapparaissent d'autre part. Il y avait aussi des cultes dans ce que la Bible appelle les hauts lieux, c'est-à-dire des jardins qui en général étaient construits en hauteur, les jardins sacrés, des bocages, des petits bocages, n'est-ce pas, des petits bois, où l'on offrait des sacrifices sanglants et où l'on se livrait à des débauches rituelles. Il y avait même des débauches rituelles dans la peinture classique. On trouve d'ailleurs des tableaux qui représentent ces débauches rituelles qui ont sévi pendant longtemps. Je ne fais que signaler ces choses, je ne veux pas bien sûr m'y arrêter, et j'arrive à une forme d'idole qui est très proche, ou qui contient, disons, la nôtre, celle de notre époque, dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 14, verset 1er. Jusqu'à verset 11. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ce ne sont plus des statues, ils les ont dans leur cœur, et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai au milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité, la peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'il y a une idolâtrie qui consiste en un attachement du cœur de l'homme, un attachement profond et persistant à certaines convoitises. Certaines convoitises. Et vous voyez qu'en général, ces convoitises sont multiples. Elles sont nombreuses. Toutes leurs idoles, la multitude de ces idoles, dit notre texte, elles sont nombreuses. Et un tel attachement, nous l'avons vu, détourne l'homme de son Dieu. Détourne l'homme de son Dieu. Il est impossible, impossible d'allier la foi vivante dans le Dieu très haut, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, avec autre chose. C'est impossible, absolument impossible, et Dieu ne veut pas. Dieu sépare. Dieu ne veut absolument pas ce mélange-là. Jésus-Christ l'a lui-même dénoncé lorsqu'il a dit « L'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, car ou on aimera l'un, ou on haïra l'autre, mais il est impossible de servir deux maîtres, d'aimer et de servir. Aimer et servir, ce sont deux notions connexes qui se touchent de très près. Aimer et servir, c'est impossible. Vous ne pouvez pas dire « Je vais faire la part de l'un et la part de l'autre ». Absolument impossible. Ou il aimera l'un, il va donc aimer l'un et il va haïr l'autre, haïr ou commencer à aimer moins, n'est-ce pas, ne plus aimer et haïr. Et en général, quand il y a deux maîtres, on peut dire que c'est cela, n'est-ce pas, parce que alors il faut tout de suite revenir à l'Éternel, détournez-vous de vos idoles, détournez vos regards de toutes vos abominations. Quand il y a deux maîtres, il y en a un qui est aimé moins, qui est même haï, c'est l'Éternel lui-même. Lorsqu'il y a donc un partage du cœur de l'homme, c'est l'Éternel qui est abandonné. C'est lui. Parce que c'est lui le Dieu gênant. C'est lui le maître gênant. Les autres sont des maîtres agréables. N'est-ce pas ? Lorsque le cœur a été séduit, les autres maîtres que l'Éternel sont agréables, attirants. Et à ce moment-là, le cœur de l'homme commence à voir dans l'Éternel simplement la rigueur, l'exigence, n'est-ce pas, la contrainte qu'il faut faire peser sur soi. La foi, bien entendu, c'est là amenuisée, elle a régressé, n'est-ce pas, et la séduction est venue. Et bien entendu, alors pendant un temps, celui qui a connu l'Éternel, qui a connu le vrai Dieu, qui a connu Jésus-Christ, voudrait rester là. Alors il veut quand même, il ne veut pas se détacher, mais il finit par se rendre compte que c'est insupportable, et un beau jour, il rompt, n'est-ce pas, et il se livre de l'autre côté. C'est ce qui est arrivé à bien des hommes, c'est ce que l'apôtre Pierre nous signale dans sa deuxième épître, et que quoi que disent certains groupes évangéliques, qu'on ne peut pas perdre son salut, ça n'est pas absolument biblique, n'est-ce pas? Dans la deuxième épître de Pierre, il nous est bien dit ceci au chapitre 2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront, voyez, le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Nous avons encore au verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ça, vous voyez que bibliquement, il y a bien d'autres passages, on ne peut pas dire que étant sur la terre, nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons été lavés, nous avons reçu le pardon de nos péchés, sommes devenus des enfants de Dieu, mais tant que nous sommes sur la terre, n'est-ce pas, il subsiste des risques, et ces risques sont écartés uniquement par l'entière fidélité, par le maintien de la foi. Mon juste vivra par la foi. S'il se détourne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous comprenez que Dieu qui veut nous sauver, qui nous aime de cet amour qui n'a d'autre mobile que de sauver pour l'éternité, donner la vie éternelle, ce bien immense, inconsidérable, on ne peut pas le considérer, on ne peut pas humainement le penser, ce bien de la vie véritable, la vie éternelle, qui est la vie de Dieu ? Qui est la vie de Dieu ? Alors, vous comprenez, faire mourir quelqu'un à la vie de Dieu, ça, Dieu ne peut pas pardonner une chose comme ça. Il ne peut pas supporter cela. Ça, Dieu, donc, doit être rigoureux. Dans son amour, il ne peut pas être autrement que rigoureux. Imaginez, par exemple, que quelqu'un, n'est-ce pas, oh ben, nous avons assez souvent ça. Voyez, par exemple, le rapt d'un enfant. Des choses qui se produisent de notre temps. Hein. On enlève un enfant. Mais voyez les transes dans lesquelles les parents, le père et la mère, se trouvent, n'est-ce pas ? Leur enfant est parti et on l'a volé. Et ces jours, on ne sait pas, peuvent être mis en danger. Sur la terre, ça nous produit beaucoup d'émoi. Mais imaginez Dieu, on lui prend des enfants, on les lui prend. On les lui enlève, et ce sont des enfants de la vie éternelle, non pas de la vie éphémère de cette terre, mais de la vie éternelle. Alors, mettez-vous, n'est-ce pas, s'il est possible ainsi, à la place de Dieu, n'est-ce pas, pour comprendre la rigueur de Dieu. Ah, il y a, je me souviens, un père à qui on avait pris son enfant, n'est-ce pas, et la police lui recommandait d'être très calme dans cette déclaration, de ne pas bouger pour ne pas, justement, amener, n'est-ce pas, peut-être une réaction du côté du voleur qui aurait nui à l'enfant, n'est-ce pas? Mais ce père en privé disait je serais capable de cet homme, si je le tenais, je serais capable de le tuer, lui qui n'avait jamais tué personne, serait capable de le tuer. Je préférerais perdre ma vie, n'est-ce pas, que de laisser cet homme impuni, parce que c'est une chose infâme qu'il a fait là. Je me souviens toujours de ça. Enfin, alors, s'il en est ainsi parmi les hommes, et s'il en est ainsi à l'égard d'une vie qui n'est qu'une vie éphémère, je le répète, tant que nous ne sommes pas sauvés, la vie que nous avons, c'est une vie éphémère, et je l'ai rappelé hier, c'est la vie dont Paul parle en disant qu'elle est une mort. Vous étiez mort dans vos offenses, parce que tant qu'on n'est pas à Dieu, on ne détient qu'une vie physique éphémère, on ne détient pas la vie véritable. Elle est perdue en Éden, la vie véritable. Elle a été perdue là. Alors, chers amis, comprenons la rigueur de Dieu. Comprenons-la, n'est-ce pas ? Vous voyez, n'est-ce pas, que Dieu a raison d'être rigoureux. Dieu ne serait pas le Dieu amour s'il n'avait pas cette rigueur. Pourrait-il permettre qu'on lui vole ses enfants ? Qu'on lui vole ceux à qui il donne la vie éternelle ? Ceux qu'il destine à la vie éternelle ? Dieu ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas. Et par conséquent, n'est-ce pas, de là sa rigueur. Sa rigueur. Vous voyez, si un prophète se laisse séduire, lui-même un prophète, un authentique prophète, se laisse séduire. S'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurai séduit ce prophète, et j'étendrai ma main contre lui, je le détruirai au milieu de mon peuple d'Israël. parce que c'est une chose abominable, abominable. Il n'y a pas de chose pire que celle-là. Alors, chers amis, il faut que nous comprenions cela, que nous comprenions l'Éternel, n'est-ce pas ? Et ne pas conserver des petites pensées plus ou moins de jugement en disant « Ah, tout de même, c'était rigoureux autrefois, pas heureusement maintenant, ça l'est moins. » Il ne faut pas voir cela. Il faut voir que la rigueur de l'Éternel est la même, même si l'on ne met pas aujourd'hui des gens à mort, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes dans le temps de grâce. Cependant, n'est-ce pas, sachons que ceux qui détournent des enfants de Dieu de la voie, n'est-ce pas, de leur voie, la voie du salut, la voie de l'union à Jésus-Christ, ceux qui détournent, qui font cette œuvre abominable, ceux-là commettent le péché contre la mort. Nous l'avons étudié, ce péché, n'est-ce pas, c'est bien cela, son essence, c'est de prétendre lutter contre l'action de salut que Dieu mène par Jésus-Christ.
Qui ne peut pas être pardonné, a dit le Seigneur Jésus, ni dans ce temps, ni dans l'autre.
Et ça, nous le devons le comprendre, n'est-ce pas ? Nous devons le comprendre avec ce que je vous ai dit. Alors, comme l'ennemi, lui, est celui qui tire à l'opposé de Dieu, je parle de Satan et de tous ceux qui lui font escorte, tous ces démons, alors il tire à l'inverse de Dieu. Doucereux, les moyens subtils, ils emploient des insinuations, ils exploitent la faiblesse du cœur de l'homme dans ce temps pour insinuer de mauvaises choses et pour introduire un deuxième maître ou un ou plusieurs autres maîtres afin de détourner le cœur des hommes de l'Éternel leur Dieu. Et chers amis, dans ce temps, nous le voyons et nous y sommes et vous y êtes exposés, vous m'entendez ? Prenez garde. Le catholicisme est un ensemble, nous allons devoir en reparler, ce n'est pas que je veux moi-même toujours appuyer là-dessus, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, on ne le comprend plus, on ne sait plus, n'est-ce pas, que l'apostasie est là, caractérisée, on ne connaît plus le jugement de Dieu sur ce système, et il faut le mettre cela en lumière, c'est absolument indispensable. Il y avait, dans les premiers temps de l'Église, des pères qu'on appelait les pères apologètes, ils faisaient de l'apologétique, c'est-à-dire de la défense de la foi, et ils signalaient tout ce qui était séduction, hérésie. Ne faut-il pas qu'on le fasse maintenant ? Oh si ! Parce que la vigilance s'endort. La vigilance s'endort. On le sent bien, la vigilance des cœurs s'endort. Et le discernement fait défaut. On ne discerne plus les esprits. On ne discerne plus les actions de l'ennemi. Et on voit avec une certaine complaisance des Madians, des Moabs, n'est-ce pas ? Des Ammonites, tous ces peuples ennemis de Dieu, tous ceux, n'est-ce pas, qui sont là à pratiquer, se livrer à des pratiques qui sont séduisantes et qui, malheureusement, n'est-ce pas, s'exercent au détriment de la foi, aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Alors, il faut absolument le dire. La menace est trop réelle et est trop actuel pour que on ne la dénonce pas. Les idoles du cœur, un attachement qui détourne l'homme de son Dieu. Nous allons lire un certain nombre de passages, nous allons faire une promenade, si vous voulez, à travers les textes bibliques. Prenons le chapitre 11 du livre des Nombres, chapitre 11. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de mal écrit, Tabéhéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Voilà une situation qui est tout à fait propice à la séduction. Elle ouvre la porte à la séduction. Le peuple murmure, il est saisi de convoitise. Saisi de convoitise. Il a la manne qui est un aliment complet, parfait. Ah, il y a souvent des hygiénistes, des hygiénistes de l'alimentation, une alimentation rationnelle, diététique même, qui parlent beaucoup d'aliments complets. Ça, eh bien là, c'en était un par excellence parce que c'est Dieu qui l'avait préparé, cet aliment, la manne. C'était un aliment complet. Si nous l'avions aujourd'hui, vous savez, nous serions évidemment très heureux parce que alors là, vous pourriez laisser de côté toutes les boutiques où l'on vend des produits de régime. Hein? Vous auriez là quelque chose de magnifique, de parfait. Et votre santé s'en trouverait très bien, vous savez, parce que là, dans le désert, le peuple d'Israël n'était pas malade. Et il ne fallait pas qu'il soit malade, parce qu'alors là, il aurait fallu, n'est-ce pas, porter des brancards, porter des lits, quand on se déplaçait. Le peuple n'était pas malade. Ses pieds même ne s'enflaient pas lors des longues marches qu'il était obligé de faire. Les pieds ne s'enflaient pas, parce que Dieu a une action sur notre corps et notre santé. Je ne sais pas si vous le saviez, oui. Oui, il a une action. Mais on l'a un peu oublié, ça aussi. N'est-ce pas ? Il a une action, les pieds ne s'enflaient pas. Mieux, les chaussures. Misérable instrument qu'une chaussure. Qu'est-ce que c'est que ça, auprès de Dieu ? Mais les chaussures ne s'usaient pas, non plus, pendant 40 ans. Et les vêtements ? Oh, tout de même, les vêtements. Mais ils ne pouvaient pas en faire d'autres. Les vêtements ne s'usaient pas. Il y a eu vraiment là une vie, n'est-ce pas, extraordinaire sur cette terre. Et ce qui nous montre, c'est glorieux de voir ça, parce que, n'est-ce pas, cela nous montre que même dans les conditions de cette terre, Dieu peut intervenir en tout, et devant toute difficulté, obstacle, en tout, il peut intervenir, en tout. Alors, n'est-ce pas, là, le peuple avait donc cet aliment complet, magnifique, la manne. C'était l'aliment de l'Éternel. Mais, à la fin, il mangeait toujours cela, et uniquement cela, puisqu'il n'y avait pas de... il n'y avait plus d'autre chose, les provisions étaient épuisées, et les troupeaux étaient, eux aussi, très réduits, n'est-ce pas ? Ils se mettent à murmurer. Pourquoi ? Eh bien, c'est que le peuple n'avait pas encore, à ce moment-là... et la force nécessaire, la force spirituelle, n'est-ce pas, et la convoitise de la chair réapparaît en lui. Alors il a une espèce de, dans ce désert, un mirage, non pas le mirage d'une oasis, mais le mirage des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des oignons et des os, n'est-ce pas, et les poissons qui ne nous coûtaient rien. Il y a l'intérêt en même temps, n'est-ce pas ? Les poissons, la manne ne lui coûtait rien non plus, mais enfin, les poissons qui ne nous coûtaient rien en Égypte, on en avait en abondance, n'est-ce pas ? On pouvait faire des plats, il voit ces plats magnifiques qu'il pouvait faire, n'est-ce pas ? C'était doré au four, c'était bon, oh là là, quel régal ! Et alors, ils n'ont plus tout ça. Convoitise ! La convoitise, n'est-ce pas ? Une convoitise qui s'allume, et qui déjà est la séduction, et qui ouvre alors tout grand la porte à la séduction. Au verset 34 de ce chapitre 11, on donna à ce lieu le nom de Kibroth-Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. L'affaire tourne très mal, et cette convoitise aboutit à la mort de beaucoup de membres du peuple. Voilà à quoi mène la convoitise, n'est-ce pas, en définitive, à la mort. Nous avons maintenant le psaume 106, le psaume 106, versets 13 et 14. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Et Dieu va leur accorder ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ah! Hein? On ferait bien de lire le 15. Oui, il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Alors qu'ils étaient en santé magnifique, une santé solide, tenace, n'est-ce pas? Ils n'avaient rien à craindre. Mais vous voyez, quand l'homme est trop bien servi, quand l'homme, n'est-ce pas, a tout ce qui constitue son aise dans la vie, il a sa grande aise, il a une vie vraiment florissante, n'est-ce pas, qui n'est affectée par rien, l'homme actuel redevient, n'est-ce pas, l'homme de la chute. Il conteste à l'Éternel, n'est-ce pas? Ils tentèrent l'Éternel, c'est-à-dire ils provoquèrent l'Éternel par des pensées, n'est-ce pas? Et des attitudes. Ils provoquèrent l'Éternel. Mais ils furent saisis de convoitise dans le désert. Saisis de convoitise. Toujours cette convoitise qui réapparaît et qui est le commencement d'un chemin vers l'idolâtrie. Nous allons maintenant aller au Nouveau Testament, bien actualiser ces choses. Romains chapitre 6 et verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point pas à ses convoitises. Les convoitises. Le péché, n'est-ce pas, entre par le moyen de convoitises. Ces convoitises exercent un art de séduction, une séduction, elles appâtent. Combien de fois n'a-t-on pas vu des gens qui étaient justement appâtés par des convoitises, lorsqu'ils avaient cédé, dire ensuite, eh bien, non, ce que j'ai eu, ça ne me plaît pas. Et pourtant, ils le désiraient. Sous l'empire de la convoitise, ils désiraient une chose, ensuite, quand ils l'ont, et ils l'ont, c'est le péché, ils ont commis le péché, n'est-ce pas? Et ils s'en repentent même, n'est-ce pas? Ils regrettent d'avoir cela. Mais la convoitise dispose d'une force extraordinaire dans l'homme. Nous allons à Éphésiens, Éphésiens, chapitre 4 et verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises ont ce caractère de tromper. Elles trompent. Elles font croire à un besoin. Elles font croire à une promesse de grand plaisir, de grande satisfaction. Et puis, je vous le disais à l'instant, quand on a cédé, la satisfaction, elle a disparu. Le diable, n'est-ce pas, à ce moment-là, il s'est découvert et il ne nous laisse que le mal causé, mais le plaisir, ce mirage qui était dans la convoitise, mirage d'un plaisir, d'une satisfaction, ça a disparu, complètement disparu. Et nous allons à 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens, nous allons faire cette saison, pendant cette retraite, l'étude de cet épître aux Thessaloniciens, au mois de septembre, début de septembre. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas leur Dieu. La convoitise, voyez, passionnée, c'est ce qui fait tomber l'homme, ce qui l'amène dans le péché, et le péché, lui, revêt presque toujours la forme de l'idolâtrie. Le péché, c'est généralement l'idolâtrie, parce que le péché lie l'homme. Et il le lie à quelque chose qui est tout à fait en dehors de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, Et voici donc l'homme lié à quelque chose qui devient en lui une idole, qui est pour lui une idole. D'ailleurs, la séduction par convoitise qui amène au péché ou qui amène à une forme mieux caractérisée ou très caractérisée de l'idolâtrie, c'est la même. C'est la même séduction, c'est la même convoitise, c'est celle du diable. Dans l'épître de Tite, au chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle a été manifestée, c'est-à-dire en Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, c'est-à-dire convoitises du monde. Prenons pas le qualificatif mondaine dans le sens où on le prend maintenant, n'est-ce pas ? Mondain, c'est la très haute société, la société riche qui vit dans le grand luxe, n'est-ce pas ? Et au milieu de toutes sortes de convenances factices. Non, ce n'est pas ça. La mondaine, ça veut dire ici du monde, c'est-à-dire ce monde qui ne connaît pas Dieu, la société des hommes qui vit sans Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Au chapitre 3 de cette même épître et au verset 3, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Voilà un tableau, n'est-ce pas, qui est pris sur le vif. Nous vivions, nous aussi, nous étions ainsi. Ah, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Toujours là, n'est-ce pas, ces convoitises qui nous font retourner à ce que nous étions précédemment. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » La raison que nous avons, n'est-ce pas, d'être saints ou d'être justes ou d'être lumière, c'est que Dieu est tout cela. Dieu est saint, c'est notre raison. Nous n'avons pas d'autre raison, nous n'avons pas besoin d'aller chercher toutes sortes de choses. Il faut que je sois saint parce que Dieu est saint. Il faut que je sois juste parce que Dieu est juste. Il faut que je sois à part de cela parce que Dieu est à part. N'est-ce pas ? Voyez, voilà la seule raison, notre autre raison, c'est cela. C'est d'être comme Dieu. Et bien entendu, nous avons un modèle tout proche de nous qui est Jésus-Christ et qui nous montre comment on peut être comme Dieu. Au chapitre 4 de cette même première épître de Pierre, chapitre 4, versets 1 et 2. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair, c'est-à-dire dans ce corps, dans ce monde. Les convoitises des hommes, non plus selon les convoitises des hommes. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. La vie qui nous est donnée est la vie divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption vient par la convoitise. Écoutez, il n'y a qu'à voir notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous arrivons aujourd'hui à un état que l'on couvre d'un mot, on ne l'appelle pas corruption, mais on l'appelle notamment la sexologie, n'est-ce pas? On en a fait une science. On a fait une belle science, n'est-ce pas? Jolie science. La sexologie, n'est-ce pas? Ou toutes sortes de choses. Alors, c'est tout simplement, n'est-ce pas, un érotisme, une corruption par une exaltation de l'érotisme qui va, lui, travailler, qui travaille déjà à l'effondrement de cette société, de cette époque et de l'humanité tout entière, d'ailleurs, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, n'est-ce pas, comment cette corruption, cette forme énorme de corruption, elle a toujours été énorme, elle a toujours eu une place énorme, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est quelque chose de fabuleux. Eh bien, je disais, dans ce rapport, les avortements touchant des fillettes, je ne peux pas les appeler autrement, de 16 ans et moins, c'est par milliers. Et il y a des avortements à 11 ans. Mais c'est quelque chose de fabuleux. Comment voulez-vous que le Dieu vivant, n'est-ce pas, puisse regarder une situation comme celle-là et si complète? Comment voulez-vous que sa colère ne s'allume pas? Enfin, nous retournons tout droit à Sodome, à Gomorre. Nous retournons tout droit à cette corruption-là et nous y allons à grands pas. C'est quelque chose d'affreux, d'abominable. Alors maintenant, on va céder, en France aussi, naturellement, on va céder partout. N'est-ce pas, ça, on a des arguments. Seulement, n'est-ce pas, on ne met pas en valeur, les partisans de l'avortement ne mettent pas en valeur, qu'à 3 semaines, l'embryon est constitué, avec des petits bras, des petites jambes, une tête et tout, il est constitué, et que l'avortement est tout simplement un crime. C'est tout simplement une mise à mort. Hein? La vie intra-utérine est une vie, n'est-ce pas? Et le sortir, n'est-ce pas, de le passage de cette vie intra-utérine à la vie libre, n'est-ce pas, est tout simplement un changement de vie, mais c'est la vie qui se continue. Hein? Alors c'est quelque chose, n'est-ce pas, de désolant de voir notre société, pour des raisons de convoitise, pour des raisons de corruption, pour des raisons d'érotisme, c'est pas autre chose, n'est-ce pas? Et parce que la morale s'est complètement relâchée, qu'il n'y a plus de reine, il n'y a plus de reine dans notre société, plus rien, les reines sont brisées, c'est un cheval au galop. Eh bien, pour ces raisons-là, n'est-ce pas, on en vient à ce crime. Ah, ça, chers amis, mais quand on tient ce discours, pas en haut lieu, les grands messieurs, n'est-ce pas, qui sont tout prêts à décider de la chose et qui vont la décider, n'est-ce pas, nous traitent de fâcheux, de gens attardés, de gens qui ne comprennent pas l'évolution, n'est-ce pas. Mais eux savent très bien, il y a des médecins, il y a des professeurs, ils savent très bien que à 3 semaines, n'est-ce pas, l'embryon est parfaitement constitué. Or, on ne peut pas faire d'avortement avant 3 semaines, c'est même bien trop tôt, n'est-ce pas? Quand on fait l'avortement, chaque fois qu'on pratique l'avortement, c'est un enfant vivant, constitué, que l'on tue. Ça, il faut le savoir. Alors, chers amis, vous voyez, n'est-ce pas, comme Dieu a sujet vraiment, n'est-ce pas, d'être irrité contre l'humanité. Irrité. Et tout cela parce que on n'a pas voulu maintenir sa loi, on n'a pas voulu maintenir le culte du vrai Dieu par Jésus-Christ, n'est-ce pas, on s'en est écarté, on a dit des folies, on est revenu à tout ce que les convoitises, n'est-ce pas, ont apporté dans le cœur de l'homme, on a cédé à tout cela, et on a donc cédé à Satan, cédé à l'ennemi, au prince de ce monde. Ah, il s'amuse bien, il rit bien de cette situation qu'il a créée parmi les hommes. Les hommes enclins au péché et faibles, et qui n'avaient pour s'en sortir que le seul appui d'appartenir à Jésus-Christ. appartenir à Jésus-Christ pour vivre. Même dans ce temps, il n'y a pas d'autre moyen de vivre en ce temps que d'appartenir à Jésus-Christ. Et voilà, n'est-ce pas, à quoi nous arrivons, à quel tragique effondrement. Et encore, je ne vous dis pas tout. C'est abominable. Nous sommes arrivés dans un temps de réelle abomination. Je pourrais vous dire encore ceci, c'est que, évidemment, en Angleterre, les médecins qui font cet avortement en quantité, puisque ça, il y en a des c'est par milliers, milliers, n'est-ce pas, eh bien, ils édifient des fortunes. Vous voyez comme c'est moral. C'est moral. Le traduit en français, je ne sais pas si l'avortement arrive à quelque chose comme 70 000 anciens francs ou 80 000 anciens francs, des choses comme ça, et ça dure 10 minutes. Ça dure 10 minutes. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Les fortunes qui s'édifient là-dessus. Des fortunes. Et alors, sans compter, n'est-ce pas, que bien des filles jeunes, encore jeunes, sont allées voler de l'argent, bien sûr, ça a poussé, ou sont allées même encore se prostituer pour avoir l'argent nécessaire de l'avortement. Vous voyez comment est construite notre société? C'est répugnant, répugnant. Tout s'enchaîne, tout est en chaîne, n'est-ce pas? Tout s'enchaîne. Pourquoi y a-t-il, n'est-ce pas, des vols? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui des hold-up en quantité? Pourquoi, n'est-ce pas, va-t-on encore comme dernièrement torturer des pauvres vieux pour leur voler leur magot? Pourquoi? Mais parce qu'il faut satisfaire le vice, et le vice a besoin d'argent. Nous sommes dans une fondrière. Nous sommes véritablement venus à la fin des temps, et le Seigneur ne pourra pas accepter la situation, cette situation-là, bien longtemps encore. C'est pourquoi nous pouvons dire, la fin des temps est proche, et la fin du péché est proche. Le Léviathan sera terrassé. Seulement, attention, cela dans une crise, je l'appelle crise, dans une crise formidable, qui ne s'est jamais vu et qui ne se verra jamais plus, cela, la Bible le dit, n'est-ce pas, dans une mutation terrible, une mutation qui sera véritablement là les grandes douleurs de l'enfantement d'un temps nouveau du siècle à venir. Amen.